Merci. Bien. Merci pour votre ponctualité. Il est 16h32, donc on va reprendre nos travaux. Avec une transition, je dirais, presque facile, on a beaucoup parlé d'indicateurs de besoins, on a beaucoup parlé de financement, on a beaucoup parlé de fluidité de parcours et de parcours sans rupture. Donc voilà une table ronde qui s'annonce, qui nous permettra, je l'espère en tout cas, j'en suis sûrement persuadé, d'approfondir un peu ces questions liées au parcours d'inclusion, liées au réseau. Et j'appelle à la tribune donc Jean Brien, qui est président du GEPSO et par ailleurs directeur d'un établissement à Saint-Brieuc, François Delacour, vice-président de l'association AIR, ainsi que Jean-Jacques Olivain, le fondateur du GRAT. Il vous dira ce que c'est. Et je remercie tout particulièrement Laurent Viglieno. Comme vous voyez, c'est pas conforme au programme. C'était Eddy Balagi qui devait animer cette table ronde. Eddy est souffrant, donc de manière impromptue, Laurent a accepté d'animer cette table ronde. Donc je le remercie très chaleureusement et je lui cède bien entendu la parole.
Bien, messieurs, bonjour. Après donc c'est la dimension macro sur les constats du passé et les perspectives du futur, la FISAF a souhaité, avec cette table ronde, voir s'il existait aussi des spécificités dans d'autres secteurs à travers les représentations de nos trois intervenants, puisqu'on a les responsables politiques du GEPSO, de l'AIR et du GRAT, qui se présenteront eux-mêmes, donc Monsieur Briens pour le GEPSO, Monsieur Delacour pour l'association AIR et Monsieur Olivain pour GRAT. Je l'ai fait par ordre alphabétique pour ne pas donc froisser d'éventuelles susceptibilités. Donc voir effectivement le niveau des pratiques d'établissements et de services sur d'autres secteurs que celui la spécificité des sensoriels, encore que donc notre collègue du GEPSO, il le dira aussi, est aussi un membre éminent de la FISAF, donc il fera aussi sans doute référence à ses propres expériences de terrain, indépendamment de son association. Donc c'est de voir un peu à travers des évolutions qui sont absolument indispensables et non pas effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure sur le terrain, nombre de nos collègues salariés se demandent toujours pourquoi il y a une perpétuelle remise en question, mais vous l'avez bien compris avec les intervenants précédents, si nous ne nous remettons pas en question, si nous ne nous adaptons pas aux besoins qui évoluent de nos populations, et donc si nous n'évoluons pas nous-mêmes, ça veut dire que comme certains établissements ou services, c'est la fermeture qui est susceptible d'arriver. Donc, savoir comment cette évolution, et notamment à travers ce qu'on peut appeler l'innovation, se caractérise dans chacune de vos associations, puisque vous avez remarqué que c'est le secteur associatif à travers ces trois personnes qui est mis à l'honneur également. Donc on va commencer par Monsieur Olivain, donc du GRAT, donc sur l'accueil temporaire, de nous faire part, puisque effectivement l'accueil temporaire, il nous le dira mieux que moi, est quand même une notion formalisée très récente. Son association a 16 ans et le décret qui régit l'accueil temporaire est de 2004. Donc comment monsieur Olivain se traduit l'innovation dans votre association?
bonjour. Donc pour ceux qui connaissent pas le GRAT, il y en a encore. Le GRAT, c'est le groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes en situation de handicap. Il est né en 1997 de la rencontre que j'avais initiée de pratiquants de l'accueil temporaire, qui n'est pas une innovation en soi, puisqu'on le trouve de très très longue date dans les dispositifs, mais ce qui est relativement récent, c'est effectivement sa réglementation, son organisation et aujourd'hui sa montée en visibilité dans le dispositif général. Et donc le GRAT est né de cette rencontre, parce que nous avions tous des difficultés de cadre, précisément, de cadre réglementaire, et que nous cherchions à les résoudre, ce que, ma foi, nous avons relativement réussi à faire. Le GRAT est aujourd'hui donc une association qui travaille à la problématique de l'accueil temporaire d'une façon générale, que ça soit sous l'angle de la réglementation. Là, il y a encore beaucoup à faire pour les personnes âgées. On a eu Madame Michèle Delaunay à notre 5e conférence nationale de l'accueil temporaire la semaine dernière. Elle nous a dit qu'elle avait bon espoir qu'il y ait une solvabilisation sur le répit des personnes âgées. Voilà, je sais que c'est pas le secteur qui est représenté ici aujourd'hui, mais c'est quand même important de le dire. On a obtenu des choses tout à fait intéressantes pour les personnes handicapées, puisque l'accueil temporaire médico-social est gratuit pour les enfants et il est doté globalement, enfin il fait l'objet de DGF pour les adultes avec une participation qui ne peut pas excéder le forfait hospitalier. Alors, pour les personnes âgées, ça n'existe pas encore. Donc on travaille à ces aspects réglementaires. En ce moment, on a été invité à participer au plan maladie neurodégénérative numéro 2, dans lequel la question du répit est très présente. Et c'est une suite du plan Alzheimer, mais qui va être élargie à tout un tas de situations de handicap aussi. Donc on en aura vraisemblablement des retours intéressants aussi à venir. Voilà, ça c'est notre première fonction, le plaidoyer pour cette forme d'action, bien entendu pour ceux qui en bénéficient et pour ceux qui la mettent en œuvre. Le deuxième aspect, c'est l'aspect pédagogique, et on essaye d'aller à la rencontre de ceux qui souhaitent mettre en place de l'accueil temporaire pour les aider, parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas celles de l'accueil permanent et des préparations, des organisations qui sont différentes. Donc on fait tout un travail pédagogique. Et le troisième, c'est le rapprochement entre l'offre et la demande, puisqu'on est là en accueil temporaire sur quelque chose de fondamentalement différent de l'accueil permanent, qui se caractérise, lui, par les listes d'attente. Dans l'accueil temporaire, on est dans un système extrêmement dynamique qui n'a rien à envier aux hôtels de tourisme. Entre guillemets. Voilà, ça c'était D'accord. juste pour faire une présentation rapide du GRAT et de son action.
Mais disons que l'ensemble de votre action sur ces trois volets est intéressante. Ce qui nous intéresse peut-être davantage aujourd'hui, c'est sur le second volet, en quoi finalement vous êtes plateforme ressource pour aider ceux qui veulent mettre en œuvre l'accueil temporaire, c'est ça ?
Oui. Si vous voulez, je pense que ce qui est important, c'est qu'on si vous voulez bien, c'est qu'on dise en quoi l'accueil temporaire par nature un outil de parcours et préfigure peut-être des évolutions oui. fortes en ce moment. C'est ça le point fort. Tout le monde a bien en tête l'aspect couteau suisse de l'accueil temporaire, c'est-à-dire tous les moments de parcours de vie dans lesquels il peut être utile. Alors on identifie parfaitement et à juste raison la notion de répit et de suppléance des proches aidants. Bien sûr, c'est une mission première, et dans le parcours de vie, c'est pas rien, parce que quand les gens, des aidants les accompagnent au quotidien, que ce soit avec ou sans établissement d'ailleurs, avec ou sans service d'accompagnement par ailleurs, c'est important qu'on puisse soutenir ses proches aidants dans une démographie qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, avec le vieillissement de l'ensemble de la population, avec les familles décomposées, recomposées, explosées, etc., qui fait qu'on n'a pas toujours les mêmes facilités pour mettre en œuvre les solidarités familiales. Voilà, et j'en passe. Donc c'est une première mission qui est bien connue. Mais c'est également un outil qui peut permettre des distanciations nécessaires y compris des établissements. C'est un outil qui permet le maintien des acquis et du lien social. C'est un outil qui permet les ajustements de parcours. Donc, par nature, on sait faire ça depuis longtemps avec l'accueil temporaire. Et on essaye de bien faire prendre en considération tous ces aspects du couteau suisse accueil temporaire, à la fois pour ceux qui veulent le pratiquer, pour qu'ils l'aient bien en tête et qu'ils n'aient pas une mission unique à laquelle ils penseraient, mais qu'il y ait bien tout ce panel, mais également pour ceux qui le prescrivent, et avec une pensée particulière, bien entendu, pour les MDPH. Alors, la réussite de l'accueil temporaire, elle passe par le travail en réseau. C'est une des premières conditions de l'accueil temporaire, c'est de savoir travailler en réseau et de savoir travailler avec les autres. Elle passe par la souplesse et la réactivité, c'est-à-dire d'être capable de répondre très rapidement et à des demandes qui peuvent être à géométrie très variable. Donc ça, c'est des conditions extrêmement importantes. Elle passe par l'assimilation des équipes d'une culture qui est spécifique et qui n'est pas celle de l'accueil permanent. Alors ça, si demain on généralise ce travail en parcours, il faut apprendre ça. C'est, d'abord, j'ai coutume de dire, pour l'accueil temporaire, nous on est actionnaire minoritaire du projet. Alors est-ce que tout le monde est prêt à être actionnaire minoritaire du projet quand on travaille en parcours comme ça, d'être qu'un actionnaire du projet? C'est qu'en accueil temporaire, on ne peut pas avoir plus de 25% des actions, 90 jours par an, et dans la réalité, en moyenne, on n'en a que la moitié encore. On a 10% des actions d'un projet. Donc il faut apprendre à travailler avec les autres, et c'est pour ça qu'on défend aussi dans les prix de journée de l'accueil temporaire tout ce travail qui est nécessaire en amont et en aval et qui vient s'ajouter à un turnover diabolique quelquefois et à tout un tas de difficultés comme celle de la sécurisation de séjours très courts avec des personnes en situation de handicap très lourd, etc. Voilà. Ça passe par la mise en place d'une organisation spécifique et ça aussi. C'est pour ça que dans la réglementation, on a tenu à ce qu'il soit écrit qu'il fallait un projet spécifique pour l'accueil temporaire dans les établissements. Voilà. Et puis, ça ne se réussit pas non plus si, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du planificateur, du tarificateur, du prescripteur, on n'a pas mis en place toutes les organisations nécessaires pour faciliter l'accueil temporaire, la mise en œuvre de l'accueil temporaire. Une juste adéquation aux besoins, une répartition d'une offre diversifiée sur le territoire, un travail d'information et un travail de prescription. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais on défend, et d'ailleurs M. Vacher le défend également dans son rapport, la notion d'orientation de parcours. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une sorte de package, de mesures d'accompagnement qui puissent être mises en œuvre et qui ne forcent pas à repasser par la case MDPH à chaque fois qu'on veut changer un petit élément du parcours. Ça, c'est extrêmement important. Et le travail qui est fait actuellement par les ITEP avec l'expérimentation qui est menée et sera fort utile. Si vous permettez, je raconte une petite anecdote.
Très courte alors, parce qu'après très je ne vais pas tenir
mais je la raconterai plus tard. Mais je voilà. La raconterai plus tard. Allez-y.
Bon, on va poursuivre puisque vous m'avez tendu la perche. Donc pour les ITEP, Monsieur François Delacour, qui est donc représentant vice-président de l'ER, l'association donc des ITEP, dont il pourra bien sûr dire deux mots. J'imagine que ce que vient de dire donc Monsieur Olivain fait aussi écho chez vous par rapport donc notamment au travail en réseau, puisque le R de votre association, la lettre R de votre association R veut dire réseau. Donc est-ce que vous pouvez donc nous dire comment actuellement aussi vous êtes sur un champ expérimental et d'innovation à travers, après avoir présenté votre association et les grandes lignes, une expérience qui nous intéresse tous?
Bon. Votre pied. Voilà, merci. Bonsoir. Bon, rapidement sur l'air. Hein. L'air, c'est en effet l'association des ITEP et de leur réseau. Et souvent, on se définit comme des professionnels militants au bénéfice des jeunes et des adolescents qui sont accueillis dans nos établissements. Parce que, je dirais, la spécificité de leurs difficultés est très souvent au regard d'un certain nombre de critères qui est tout simplement la brièveté souvent des séjours des enfants, parce que les enfants qui sont accueillis en ITEP ont des durées moyennes de séjour de 3 ou 4 ans et c'est souvent des pas de côté
par rapport à un chemin ordinaire, fait qu'on a peu à pas de lobby structuré du côté des associations de parents et que c'est vrai qu'on a pu prendre une place. Hein. Donc on dirait l'air voilà, hein, des professionnels militants qui réfléchissent ensemble aux meilleures solutions à trouver pour accompagner les enfants qui sont accueillis en ITEP. Ce qui, par rapport au sujet et aux préoccupations que vous mettez en place, sur lesquelles vous réfléchissez, je dirais, nous, à l'heure actuelle, nous sommes engagés dans une étude au niveau national avec le soutien de la CNSA sur ce qu'on appelle la notion de dispositif. Alors, je prends une petite précaution oratoire hein, sur ce que je vais pouvoir éventuellement vous présenter et développer, c'est que c'est des idées, des concepts, certains diront, qui sont au travail et que, bien évidemment, d'une certaine manière, rien n'est encore totalement abouti dans nos organisations et c'est un chemin que nous sommes en train de mener. Hein. Et donc, tout n'est pas réglé parce qu'il y a un certain nombre de questions qui nous sont posées. Quelles questions ? Alors nous, on a aussi la chance d'avoir un décret récent, hein, encore plus récent que l'accueil temporaire, 2005, avec une circulaire. Et donc, on a cette chance-là, par rapport aux annexes 24, d'avoir eu ce décret. Et si ce décret a pu être publié, c'est aussi parce qu'il y a eu un militantisme de notre côté. Et dans ce décret, il y avait en germe un peu ce que je vais vous présenter. Alors, une des caractéristiques des enfants qui sont accueillis en ITEP, c'est des enfants qui présentent des difficultés psychologiques et ces difficultés psychologiques les perturbent énormément dans leurs relations sociales et très, très souvent au niveau de l'inclusion scolaire. Et donc, c'est des enfants, on va dire, qui souffrent la question du lien, hein, que ça soit avec leurs parents, avec les professionnels qui peuvent les accompagner en ITEP et bien évidemment aussi avec l'école. Hein, et donc, c'est des enfants qui arrivent sur des questions de rupture de parcours scolaire. Étant dit que, logiquement, l'ensemble des enfants que nous accueillons ont des capacités intellectuelles qui sont préservées. Alors, je dirais, d'un côté, on a des enfants qui ont un handicap variable. C'est une des caractéristiques de l'enfant d'ITEP. Il est dans une situation de handicap. Il y a des moments où il va bien. Il y a d'autres moments où il ne va pas bien. Et donc, il y a une nécessité pour sa famille, pour les professionnels, pour l'école, de régulièrement s'adapter au plus juste des besoins d'accompagnement. Donc ça, c'est, on a tous fait ce constat-là dans nos établissements, dans nos services, dans les CESAD, et on a constaté que très souvent, alors il y en a qui disent bricolage, moi je dirais peut-être qu'on bricole pas, mais qu'on fait de l'artisanat, hein, on essaye de faire de l'artisanat, donc quelque chose de quand même plus pensé. Et donc très souvent, on a constaté que dans nos organisations, on venait aux limites de ce qu'était un CESAD. Alors on pouvait trouver des logiques où parfois du côté du CESAD il y avait tellement besoin d'accompagnement où parfois on venait se poser la question de se dire cet enfant va pas bien, il serait peut-être intéressant de le mettre un ou deux soirs à l'internat, et donc on était à la limite d'une logique purement ambulatoire. Et de l'autre côté, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler l'ITEP plus classique, avec de l'internat ou de l'accueil de jour, on venait constater que parfois, eh bien, il y avait des enfants dans nos organisations qui étaient scolarisés à temps plein, qui allaient plutôt bien, donc qui n'étaient plus à l'internat, et on n'était pas loin de ce qui pourrait s'apparenter à un CESAD. Donc, je dirais, d'une certaine manière, d'un côté, les difficultés de ces enfants qui nécessitent de la part, je dirais, des professionnels, des parents, une adaptation régulière. De l'autre, un peu comme ça a été présenté précédemment, des évolutions fortes sur la question de la place des parents, sur la question de l'inclusion scolaire et sur la question de la personnalisation. Donc, à partir de ça, nous, on a réfléchi, on a constaté que nos organisations, je dirais, avaient besoin de s'adapter régulièrement. Et d'une certaine manière, on a pris une prise de position un peu politique, un peu radicale, qui était de dire, alors c'est un peu technique, mais nous, on souhaitait qu'il y ait une notification MDPH vers ce qu'on appellerait le dispositif ITEP, et là on retrouve un peu ce que tu disais, qui était de dire de venir reconnaître aux enfants qu'ils avaient des difficultés psychologiques, que ces difficultés psychologiques nécessitaient un accompagnement, on va dire, interdisciplinaire dans une institution qui pouvait être dans les murs ou hors les murs. Donc, première prise de position politique, c'est-à-dire, nous demandons une notification MDPH qui peut recouvrir tous les types d'accompagnement, que ce soit du CESAD, de l'accueil du jour ou de l'internat. Bien évidemment, à partir de là, on sait que ça venait impacter un point fort, qui était la question de l'agrément de nos établissements. Et donc, la deuxième prise de position politique que nous proposions, qui était de dire, eh bien, nous voulons un agrément unique pour tant de places d'enfants d'ITEP. Et puis, d'une certaine manière, à nous, avec les parents et les partenaires, d'organiser des parcours. Et bien évidemment, c'est là où on voit qu'il y a quand même une cohérence dans ce qu'on vous présente. Dernier point, la question de la tarification. Et on voit bien que ce que nous disait M. Vacher tout à l'heure, et il y a une certaine convergence et une logique qui nous disait... Il venait sur deux logiques. Hein. Première logique, on va dire d'une certaine manière, les besoins de l'enfant. Deuxième logique, la question de l'organisation. Et nous, bien évidemment, on souhaitait aussi qu'il puisse y avoir quelque chose de l'ordre d'une dotation globale pour chacun des enfants. Donc à partir de là, on est sur ces prises de position. Et pour nous, ce qui s'entend être un dispositif, synthétiquement, c'est pouvoir avoir des possibilités d'accueil en internat, que ça soit en famille d'accueil, pourquoi pas en accueil temporaire ou en internat collectif. Et puis, je dirais, même chose du côté de ce qu'on appellerait l'accueil de jour, des possibilités de scolarisation temps plein, temps partiel ou temps complet en école ordinaire, et des possibilités aussi de développer tous les aspects éducatifs et thérapeutiques. Alors, tout ça, pour synthétiser, dans une logique interdisciplinaire au sein de l'établissement, mais aussi avec une volonté que, on va dire, le dispositif qu'on appellerait l'ITEP, l'institution, mais qui pourrait être à l'intérieur ou hors des murs, ne soit pas, entre guillemets, totalisante. C'est-à-dire qu'à elle seule, elle ne se suffit pas. D'ailleurs, les enfants d'ITEP nous le prouvent régulièrement. Ils viennent toujours, sur la question des limites, interroger les fonctionnements des institutions. Donc aussi, pour nous, la nécessité de venir sur ce qu'on appellerait un niveau interinstitutionnel, des partenaires relativement identifiés par nous tous qui travaillons dans le champ de l'enfance, qui vont être l'éducation nationale, bien évidemment, au premier chef. Du côté des enfants d'ITEP, la psychiatrie est un partenaire quasi indispensable pour nous, et puis parfois, parce que ça arrive, eh bien, on va dire l'ASE pour les jeunes, et parfois pour certains adolescents, la PJJ. Donc voilà un petit peu nous l'état de notre réflexion, la nécessité de pouvoir construire des projets avec les parents qui soient souples et qui s'adaptent, que la rupture ne soit pas vécue par les enfants comme un échec, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des pas de côté, des jeux d'aller-retour entre un endroit peut-être un peu plus sécurisant, institutionnel, et des périodes de scolarisation en milieu ordinaire. Et puis parfois aussi certains enfants qui peuvent, parce que ça arrive en ITEP, certains enfants peuvent être hospitalisés en hôpital psychiatrique, et que ça soit des éléments d'un parcours et qu'ils ne soient pas vécus comme des éléments excluants pour le jeune et pour l'enfant. Voilà. Pour l'instant, dans un premier temps, rapidement dit, un peu ce que nous essayons de développer. Donc il y a cette étude, on ne sait pas ce qu'elle donnera. Elle est sur six régions. La CNSA a investi à l'heure actuelle. Il y a trois volets dans cette étude. Le premier élément, c'est d'essayer de voir à l'heure actuelle qu'est-ce qui fait dispositif dans nos organisations. Il va y avoir un deuxième volet d'études qui sera une étude d'un certain nombre de situations de jeunes. Il y a 400 jeunes sur lesquels on viendra étudier leur parcours et voir ce qui a fait frein, ce qui a fait rupture, ce qui a facilité des parcours fluides sur les jeunes. Et il y a un troisième volet qui est prévu autour de la question de la tarification. Là, c'est pour dans 2 ou 3 ans. Voilà un petit peu, à l'heure actuelle, l'état de notre réflexion sur cette question du dispositif et des parcours des jeunes d'enfants d'ITEP.
Et alors, en attendant, juste sur la dernière question, puisqu'elle préoccupait le collègue animateur tout à l'heure, ça veut dire que vous êtes resté sur les bases de tarification qui existaient jusque-là. Il n'y a pas eu de modification sur cette expérience de base de tarification.
Non, parce que de toute D'accord. façon, ça nécessite, on voit bien ce que disait M. Vacher, ça nécessite... Ouais. Alors, la seule chose qu'on a obtenue, quand même, qui est quand même symboliquement intéressant, ce que nous avons obtenu, c'est que sur la durée de l'étude, là, qui est pour les 6 régions concernées, donc ils vont représenter quand même 70 établissements, c'est un panel de 70 établissements. On a obtenu qu'il y ait une sécurisation de financement pour les établissements. Alors il y a eu des grands débats entre la Caisse nationale d'assurance maladie, les ARS et nous-mêmes. En tout cas, nous avons des engagements, je dirais, que le comptage, pour ceux qui sont en comptage de prix de journée, soit fait systématiquement et ne tienne pas compte des éléments de parcours. Comment vous expliquer ça ? Grosso modo, on va prendre la moyenne des 3 dernières années et quel que soit le nombre de journées réalisées par l'établissement pourra les facturer, venant ainsi assurer une sécurisation du financement sur la durée de l'étude, hein, sur la durée d'étude, 100 ans. Hein. Mais c'est uniquement un modèle qui est appliqué pour l'étude, hein, de façon à ce que les établissements ne soient pas freinés dans leurs décisions.
D'accord. Merci, Monsieur Delacour. Maintenant, Monsieur Briens, donc président du GEPSO, Groupe national des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, donc association 1901, également donc membre actif de la FISAF, de nous dire comment, à travers votre organisation, votre association, vous essayez donc de voir les évolutions du futur et en particulier au niveau de l'innovation.
Écoutez, je vais essayer de le reprendre en reprenant le titre de la table ronde. Je vais simplement modifier un peu l'ordre. Je vais reprendre avec les parcours, avec l'inclusion et avec les réseaux. Donc le GEPSO est une association d'établissements et services publics. Alors précaution oratoire. Dans le secteur public, quand on parle d'établissement, il faut entendre la personne morale. C'est pas l'intra. C'est l'établissement public est gestionnaire de services. Donc, au total, c'est 250 établissements et services. Au plan national, ça représente 30 000 places à peu près. La particularité, c'est que les adhérents sont des établissements qui sont mentionnés dans la loi 2002-2. Donc ça va de tous les secteurs de la petite enfance, aide sociale à l'enfance, de la pouponnière à caractère social, les maisons d'enfants, toute la protection de l'enfance, jusqu'aux EHPAD. Donc ça veut dire qu'on est sur le champ social, on est sur le champ médico-social et sur le champ de l'exclusion sociale. Par ailleurs, il se trouve que depuis 17 ans maintenant, je suis directeur de différents instituts pour des personnes déficientes sensorielles. Donc je vais essayer de me servir des deux pour vous répondre. Alors, l'intérêt aujourd'hui de regarder les questions très transversalement, telles que nous les avons au GEPSO. D'abord, le désintérêt, c'est que nous sommes dans un pays qui ne voit que par la classification. Et donc, vous n'existez majoritairement dans les représentations que si vous êtes sur un public ciblé. Alors nous, on est assez contents aujourd'hui parce que c'est une notion qui est en train de voler en éclats, cette question des classifications. Regardez d'ailleurs dans vos pratiques, et puis essayez de dire où vous mettez les 10. Il n'existe pas, ça n'existe pas dans la réglementation. Non, on est en ce moment face à des aberrations, face aux classifications. On essaye de se servir des expériences que les différentes régions vont mener avec des publics qui sont très différents. Et je peux dire que tous les publics actuellement en France en matière d'action sociale sont concernés par la question des parcours. Alors, autour d'une notion fondamentale qui est comment accompagner des ruptures. Il ne s'agit pas de les empêcher. Les ruptures ont toujours existé. Simplement, elles sont de nature radicalement différente. Elles ont été admises collectivement. Du temps des institutions spécialisées, la rupture était la norme. C'est-à-dire qu'on n'hésitait pas à envoyer des enfants dans des institutions spécialisées. Ça allait de soi, sans se poser la question des effets de la rupture. Aujourd'hui, la rupture n'est pas du tout vécue de la même façon, quels que soient les secteurs. Et c'est assez curieux de constater qu'avec cette rupture est venue la question de la continuité. Et donc, premier enseignement que nous on en tire, c'est qu'aujourd'hui, une institution sociale doit absolument se soucier du public dont elle a la charge, quel que soit son âge et quelle que soit la durée. C'est-à-dire que on voit bien qu'un certain nombre d'institutions qui n'étaient organisées qu'autour d'une année scolaire n'ont pas beaucoup de sens au regard du public. C'est-à-dire que ce n'est pas la notion scolaire qui n'a pas de sens, c'est l'accompagnement du public n'a pas de valeur si on n'essaye pas de le regarder sur la permanence. C'est la notion de continuité, ça. On doit absolument s'en soucier, soit seul, soit avec le concours de d'autres. Deuxième chose, cette notion de la rupture va d'abord aujourd'hui être surtout dans la prévention de la rupture, ou du moins dans la prévention de la rupture non choisie par les personnes. C'est assez curieux de constater qu'en matière d'aide sociale à l'enfance, qui est un secteur extrêmement difficile, très souvent conflictuel, on va rechercher aujourd'hui à mettre en place des actions qui vont éviter les ruptures non souhaitées. Or, la plupart du temps, elles sont non souhaitées. Et donc, on a développé des services en matière d'aide sociale à l'enfance auxquels on n'aurait jamais pensé il y a 15 ans, qu'on appelle même des placements au domicile aujourd'hui. En matière de personnes âgées, on parle énormément des EHPAD, mais souvenons-nous quand même que 80% des personnes âgées vivent à leur domicile. Et donc, il ne faut pas qu'on inverse les choses. Les institutions intra sont aujourd'hui une minorité dans la question de l'action sociale. Et donc, l'action sociale s'est transportée au domicile des personnes ou en proximité. Ce qui fait que la notion d'inclusion sur laquelle on travaille, c'est vraiment le droit commun, c'est la question collective de quel type de société voulons-nous et militons-nous pour que les gens vivent d'abord avec les leurs dans leur environnement, dans l'environnement qui est choisi. Et on voit bien que c'est une notion qui a révolutionné les institutions, notamment les intra-institutions. Et si on a le temps, j'essaierai de vous dire en quoi, à mon sens, elle va révolutionner aussi les services. Et troisième notion, les réseaux. Eh bien, c'est la conséquence logique de tout ce que je viens de dire. Il est absolument impossible aujourd'hui, non souhaité par les usagers eux-mêmes, qu'une institution fasse tout. Elle en est incapable, parce qu'il faudrait qu'elle puisse s'occuper de tous les aspects d'une personne, de sa vie, de ses habitudes de vie. C'est, un, matériellement impossible, et c'est tout à fait non souhaitable. Donc, elle est obligée, dès lors qu'on entre dans une phase d'accompagnement, de travailler avec l'ensemble des acteurs locaux, parce que la vie de la personne, elle est locale. Et ça a été dit tout à l'heure, la qualité de sa vie, elle est locale, et c'est localement qu'on l'appréciera. Donc voilà, nous, à peu près, quel est notre positionnement, avec quatre dimensions pour le GEPSO. La première, c'est un comité scientifique de l'éthique, de l'évaluation et des pratiques professionnelles. La deuxième, c'est la mise en place d'un comité national des usagers, parce que nous pensons qu'aucun service ne pourra désormais se créer sans qu'on associe à leur élaboration les personnes elles-mêmes. La troisième, c'est la recherche sur le management des institutions, parce qu'elles sont en profonde transformation et ce n'est pas fini. Et la quatrième, c'est le lien absolument nécessaire à développer avec la recherche et notamment avec l'université. Voilà, c'est les quatre dimensions sur lesquelles on travaille actuellement.
Bien. Tout ce que vous avez évoqué, vous trois, nécessite effectivement, comme ça a été dit par les précédents intervenants, de pouvoir coopérer. Donc, est-ce que vous avez des recettes sur la coopération? Parce qu'on parle toujours de la coopération, mais on ne parle pas de ce que des fois des structures sont en situation de fait de concurrence et dont on ne sait pas comment elles se débrouillent selon les régions de cette concurrence. Alors, est-ce que vous avez des recettes pour la coopération? Et s'agissant de la concurrence, est-ce que vous pensez que ça peut être un frein ou un moteur à la coopération et à l'innovation? Alors, à chacun de vous de donner vos points de vue.
Ben, là, ça serait presque une position personnelle. Moi, je suis attaché à la notion de service public sur un territoire. Donc, je pense que les associations, elles viennent venir satisfaire à des besoins qui ont été identifiés. Donc, je pense que la concurrence, alors c'est un peu un rêve. Néanmoins, on sait bien que derrière, il peut y avoir des enjeux, mais néanmoins, c'est intéressant de revenir s'appuyer sur ces fondamentaux. Quant aux recettes pour les dépasser, alors je dirais que là, je parle du côté principalement des enfants qu'on accompagne dans les ITEP, mais encore, moi, je suis directeur d'une association qui gère des IME, on peut retrouver. Moi je crois beaucoup à la question de la formation et justement de pouvoir mener des formations entre institutions et entre les différents partenaires. Au nom de l'air, je participe à un comité de pilotage national UNIFAF sur les situations complexes. Alors, elles ont eu plusieurs noms, mais on va dire sur les situations complexes. Et c'est une formation qui est assez intéressante parce qu'elle tente de regrouper des gens des professionnels de l'éducation nationale, des professionnels du secteur médico-social, des professionnels des secteurs des hôpitaux. Et il y a un volet qui est assez intéressant dans cette formation qui est le fait que chacun va faire un stage chez l'autre. C'est-à-dire que chacun voit un peu quel est le travail de l'autre, quelles sont ses missions. Donc,
une recette, je ne sais pas. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des enjeux de concurrence sur un territoire, mais on va dire que souvent, moi, ce que je constate, ça va être plutôt l'apanage des associations. Ce que je vois, moi, au niveau des professionnels, c'est de temps en temps des situations complexes sur lesquelles chacun vient sur ses propres limites. Et on va dire que parfois, le premier réflexe pourrait être de dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». C'est un peu basique ce que je dis, mais néanmoins, c'est souvent ce qu'on peut voir à l'œuvre. Et donc, je pense que le meilleur moyen de l'inverser, c'est justement apprendre à se connaître, à travailler ensemble sur des territoires donnés. Et je pense qu'un des bons leviers, c'est la question de la formation.
Merci.
Pour l'accueil temporaire, il va y avoir deux grands cas de figure. Soit il fait partie de la palette du gestionnaire qui possède l'accueil temporaire. On en parlait tout à l'heure pour la Mayotte à Montlignon, où il dispose de la palette. Donc effectivement, la coopération, la coordination ne doit pas être bien compliquée à organiser en interne. Encore que. Mais enfin, bon, c'est pas le plus dur. Sinon, le GRAT est très promoteur des unités dédiées d'accueil temporaire et des unités autonomes, comme les maisons d'accueil temporaire. Et là, on a des exemples de travail intéressants. Et c'est vrai qu'en accueil temporaire, on se présente comme actionnaire minoritaire. Donc, on aborde la coopération d'une façon assez détendue. Et donc, j'ai l'exemple d'un établissement pour enfants autistes qui a repéré que des familles utilisaient un accueil temporaire pour les vacances et qui s'est intéressé à intégrer cette capacité-là dans son programme éducatif, dans son action le reste du temps, et qui avait obtenu à l'époque de la CRAMIF, parce que c'est un établissement situé à Paris, qu'un enfant puisse avoir, que l'établissement puisse disposer d'une place dans l'unité d'accueil temporaire tout au long de l'année et qu'il puisse organiser au profit de l'ensemble des enfants qu'ils avaient tout un tas de programmes, d'actions éducatives qui pouvaient être sur la distanciation, sur l'évaluation de la capacité à vivre en internat, qui pouvaient être tout un tas de choses comme ça. Et ça avait été traduit par une convention qui avait été validée par tous, par des réunions de synthèse qui se faisaient. Ben oui, il y avait quelques centaines de kilomètres entre les deux établissements, mais ça n'empêche pas de faire des réunions. On était comme une sorte de service de l'établissement. Voilà un modèle de coopération qu'on a déjà expérimenté.
Monsieur Briens.
Sur votre première question, la question de la concurrence, je ne pense pas qu'on puisse directement dire quand même que nous sommes en concurrence au sens où des entreprises du secteur marchand sont en concurrence. Néanmoins, je n'y vois pas forcément un aspect entièrement négatif. Il faut bien, ça a été dit tout à l'heure, deux institutions avec les mêmes moyens ne font pas du tout la même chose. Et on voit bien que les initiatives ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, par exemple, il est clair que chacun, je pense, essaye de construire des initiatives pour se faire remarquer, enfin pour avoir de la qualité dans ses services dont il va pouvoir tirer une certaine valeur. Maintenant, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est vraiment en concurrence. Enfin, on est toujours dans un secteur autorisé. Donc, faut pas non plus qu'on emploie n'importe quel mot pour n'importe quoi. Je ne crois pas. Maintenant, qu'il faille mettre en débat nos pratiques et ce qu'on fait et nos résultats, ça me semble absolument nécessaire. La concurrence, oui, si c'est sur nos dispositifs pour qu'on les mette en débat. Non, si c'est autour des personnes. Parce que dans la question de la coopération, c'est très important pour pouvoir coopérer avec quelqu'un qu'on soit au clair avec ce qu'on est capable de faire. Si on veut monter des projets collectifs, la qualité de la coopération va reposer sur la définition de ce que chaque partenaire apporte. Et on ne peut pas tout apporter. On apporte un élément. Dans un partenariat, ça va être tel élément. Dans un autre, ce sera un autre. Or, nous avons face à nous des questions qui sont extrêmement complexes, qui sont rendues d'autant plus complexes qu'on est dans une situation économique difficile. Je vais vous en prendre une ou deux. Sur la région Bretagne, on a identifié, maintenant ça fait plusieurs années, que la question de la basse vision et de la basse audition, notamment chez les personnes âgées, était une question non prise en compte. Bon, c'est pas parce qu'on le dit, nous, à notre petit niveau établissement, que la question va émerger. Il y a longtemps qu'on est sorti de cette illusion de penser que parce qu'on pensait, les autres allaient le savoir. Personne n'en sait rien du tout, quoi. Donc, on s'est unis avec beaucoup de partenaires en Bretagne pour essayer de faire émerger cette question-là. Et déjà, à beaucoup, c'est pas facile. Et donc, derrière ça, il y a d'autres modèles qui existent, parfois en France, d'ailleurs, qu'il faut connaître. Ça veut dire que c'est un travail extrêmement long, le partenariat, ces coopérations, mais on ne peut y aller que si on sait exactement ce qu'on amène et si les autres partenaires sont capables de le savoir. Voilà.
Alors, sur le champ des sensoriels de votre fin d'intervention, peut-être que c'est ce que fait la FISAF dans certaines régions et ce que pourrait faire la FISAF, mais ça c'est Maurice Beccari qui aura l'occasion d'ici la fin du congrès de nous éclairer là-dessus, ainsi que les collègues qui peuvent vivre ces expériences-là, mais je pense qu'effectivement, se mettre à discuter ensemble nécessite quelquefois qu'il y ait quelqu'un qui soit un élément facilitateur et pas forcément l'autorité de contrôle pour pouvoir permettre que chacun apprenne à se connaître, à dialoguer et à voir ce qu'il peut faire ensemble. Je ne sais pas si tu veux répondre maintenant, Maurice, ou non, après. Tu auras l'occasion.
Merci. Juste là-dessus, je vous rassure, c'est pas par absence de travail en commun. Hein. C'est simplement parce que le dossier est compliqué, qu'il n'y a pas de sous aujourd'hui et qu'il faut réussir à monter des projets. Mais chacun y va avec une casquette. Vous savez, les casquettes, on les change au hasard des partenariats. Hein.
Oui, oui. Merci. Sur la formation, puisqu'effectivement, le thème de la table ronde et de nos journées sont aussi sur les évolutions métiers. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au-delà de ce qui a déjà été dit et de la réforme donc de tous les référentiels métiers déjà connus? Qu'est-ce que vous en pensez en matière de formation de façon plus générale et sans doute la formation continue?
Moi, je vais prendre un exemple qui peut sembler très, très réducteur, mais qui me semble très intéressant. Je pense que auparavant, les professionnels dans l'accompagnement de projet avaient un certain nombre de références qui étaient définies et dictées. Je vais vous prendre, nous, dans nos établissements, ils étaient ouverts 210 jours ou 207 en fonction de l'histoire. Les parents arrivaient, on leur disait, votre enfant, il doit être là 210 jours. S'il est 209, c'est pas bien, il doit être là 210 jours. On voit bien que les nouvelles logiques font que on va travailler les choses différemment. On voit bien qu'admettons, nous on a des établissements pour des plus jeunes et des adolescents, les logiques avec certains adolescents ne sont pas du tout les mêmes qu'avec des jeunes. Et donc dernièrement, nous étions dans le comité de direction et on évoquait cette question et j'ai un collègue directeur qui me dit, oui, mais avant grosso modo c'était simple, je disais à la famille c'est 210 jours, maintenant il faut que je définisse quelque chose avec elle. Et donc de trouver parfois, je dirais, dans des tensions qu'il peut y avoir, alors admettons où on va considérer nous que pour un adolescent ça serait intéressant qu'il vienne une semaine, admettons, pendant les petites vacances, et que l'adolescent et sa famille éventuellement vont pas le souhaiter ou pas le vouloir. Et donc je crois que là il y a vraiment un professionnalisme à construire, je dirais, dans ce qu'on pourrait appeler l'accompagnement de projet, hein, et d'arriver tout en définissant les besoins de l'enfant, d'arriver à rentrer dans une nouvelle culture qui sera de trouver des bons équilibres dans la construction du projet des enfants. Et là, à un moment donné, moi j'ai senti qu'il y avait, entre guillemets, je dirais pas un vacillement, mais une interrogation qui était de dire, mais pour finir, entre je cède tout à la famille, éventuellement, dans cette idéologie-là, et je suis sur le tout à 210 jours, qu'est-ce que je vais construire et quelle est ma crédibilité de professionnel? Et je crois que là, il y a des nouvelles constructions à avoir, que ça va parfois nous mettre dans des situations délicates, mais personnellement, je trouve ça beaucoup plus passionnant d'arriver à définir, même sur un truc tout bête, hein, comme ça, qui est un volume de la prise en charge, de l'accompagnement, j'irais plutôt que de prise en charge, je trouve ça beaucoup plus intéressant et passionnant pour nous de construire avec des parents et un ado, de dire, ben, t'as besoin de quoi, nous on a cet avis, toi t'as, et on trouve ensemble quelque chose, plutôt que de lui dire c'est du 110 jours et si t'es là 209, grosso modo on n'est pas content.
D'accord.
Donc là on voit bien qu'il y a besoin d'une affirmation, d'un professionnalisme, je dirais, dans cette technique. Parfois il y en a certains qui appellent ça du case management, ce genre de choses, mais en tout cas dans
avoir une légitimité dans un travail avec les parents. Et là, on se rend bien compte aussi que ça, le travail est tellement important que ce travail doit être approprié par l'ensemble des membres d'une équipe. C'est-à-dire, ça ne peut pas être un directeur, je crois, ou un chef de service qui va pouvoir le faire tout seul. C'est l'ensemble des professionnels qui doivent pouvoir rentrer dans ce travail de proximité, de construction de projet avec les parents.
D'accord. C'est donc l'accompagnement des professionnels dans les changements auxquels nous avons à faire face. En deux minutes, si vous voulez intervenir sur la question de la formation, de ce qui vous paraît important oui, au niveau de
peut-être
votre
sur
organisme.
Il y a deux notions extrêmement importantes sur la formation. La première, c'est que la posture s'est totalement inversée, c'est-à-dire qu'auparavant, globalement, et pour caricaturer, en tant que professionnel, nous établissions le besoin, et ensuite on y répondait, ce qui était assez simple comme schéma d'organisation. Aujourd'hui, c'est quand même la personne qui est au centre et nous allons l'accompagner quand elle va définir son besoin. Et là, on est un petit peu plus mal à l'aise parce que c'est quelque chose qui n'a pas été dans la culture de formation de la plupart des professionnels que nous sommes. Et donc, on a un énorme travail d'amener les professionnels à cette posture qui est une posture totalement inversée par rapport à ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire que il faut se mettre à l'écoute de la personne et de ce qu'elle va exprimer. C'est très compliqué. Et très souvent, on voit bien qu'on est tenté de faire, de faire la marche arrière. Deuxième situation difficile, c'est que de plus en plus, nous avons des usagers qui sont plus sachants que les professionnels. C'est-à-dire qu'on a des groupes d'usagers qui sont extrêmement informés de leur situation. Dans le champ du handicap, c'est quelque chose qui devient majeur sur les maladies rares, sur les handicaps rares. Vous avez des groupes d'usagers qui en savent beaucoup plus que la plupart des professionnels qui s'occupent des personnes. Ce qui nous oblige, dans les différentes institutions, à engager, non pas individuellement, mais collectivement, des montées en compétences. Et quand on disait tout à l'heure que il y avait un problème sur la formation. Moi, ce n'est pas vraiment ce qu'on constate. Les demandes de formation sont très importantes dans les établissements aujourd'hui. Mais elles sont très complexes à solutionner parce qu'il s'agit d'amener tout le monde à monter en compétences.
Oui.
Donc, au Grat,
Monsieur Olivain, oui.
Au Grat, on développe des formations sur la culture spécifique de l'accueil temporaire, qui est la culture qui permet de travailler avec les autres et de répondre à une question qui nous a souvent été posée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de bien avec des personnes qu'on voit 3 fois 15 jours dans l'année, etc. Voilà. Eh bien, il y a des possibilités de faire des choses de bien. Quand bien même la mission est celle du répit, alors on pourrait mettre en face garderie. Non, on ne met pas en face garderie, on met en face des projets pour la personne, on monte les projets, on les suit, on en rend compte, enfin on fait la partie qu'on peut faire nous pendant les séjours, on en rend compte et on continue à travailler avec les autres. Par exemple, sachez qu'en sortie d'accueil temporaire, il est recommandé de faire 3 enquêtes de satisfaction, une vers l'usager s'il peut s'exprimer et en mettant tous les moyens pour qu'il le puisse, une vers les proches et une vers tout autre prescripteur inclus dans le réseau, de façon à pouvoir travailler sur tout un tas d'axes. Voilà. Et on apprend dans cette formation, pour le développement de l'accueil temporaire, aux professionnels à appréhender cette culture spécifique qui, à mon sens, va faire tâche dans la notion de parcours. Comment moi je fais mon petit bout avec les autres. Et puis on développe également une formation de coordonnateur accueil temporaire qui n'est pas le coordonnateur de parcours, hein, entendons-nous, hein, qui est le coordonnateur accueil temporaire, qui est celui qui fait toute la préparation amont, toute la sortie aval, etc. Toute chose qui justifie des surcoûts dans l'accueil temporaire, mais aussi bien des bénéfices. Voilà.
Merci. Maintenant, donc, la parole est à la salle pour des questions que vous voulez poser à l'ensemble de nos intervenants ou un intervenant en particulier par rapport à leur intervention.
Je voudrais peut-être reprendre une des interventions de Jean Brien On a parlé des institutions et du réseautage et essayer de voir comment on peut en tirer des conclusions. Je pense que M. Brien nous disait les institutions ne sont pas autarciques, on doit travailler en réseau, on parle de réseautage. Et ça suppose qu'on travaille, pour reprendre le terme qu'il dit, en partenariat. Pour moi, en tout cas, dans cette façon-là, je trouve qu'on peut dégager deux types de conclusions organisationnelles. En tout cas, c'est dans un premier temps, si on travaille en partenariat, il va falloir un peu formaliser nos ententes, avoir des ententes inter-organisations pour bien s'articuler et d'essayer de répondre aux besoins des personnes pour lesquelles on produit des services. Quelles sont la nature de nos ententes formelles? Comment on s'articule entre nous? Comment on est chacun une maille de la chaîne, du parcours? Le deuxième élément, c'est qu'est-ce que ça implique pour l'usager, pour le bénéficiaire de nos services? Il est en situation où il y aurait comme plusieurs PIA ou quelque chose qui pourrait ressembler à des PIA. Des PIA qui ne sont pas nécessairement coordonnés les uns avec les autres. Et l'ensemble des services qu'il reçoit, il faut que ça soit intégré. Il faut qu'il ait quelque part un PIA intégré. Et ce n'est pas de la compétence de l'intervenant de notre établissement ni celui de l'autre. C'est sûr qu'on comprend que le parent a un rôle extrêmement important dans cette coordination-là des services que requiert, des services d'accompagnement que requiert le jeune. Mais souvent, seul, il n'est pas capable de le faire. Il se trouve devant chacune des structures à faire quelque chose que les structures, des fois, ne font pas par rapport à son jeune. Donc, ça va, d'après moi, amener à ce que les gens qui travaillent auprès d'un jeune provenant de différentes institutions avec le parent identifient un peu comme un intervenant pivot, un professionnel pivot qui puisse aider cette articulation-là. Et ça va amener, dans un travail en réseau, des nouvelles fonctions auprès des intervenants. Il va y avoir des intervenants qui vont devoir jouer ce rôle de pivot pour permettre à ce qu'on ait un PIA intégré. En tout cas, ce ne sont peut-être pas des nouveautés, mais j'essaie de dégager, à partir de ce que disait M. Brien, deux éléments, autant au niveau de l'organisation des services auprès de l'usager, comme auprès des établissements qui travaillent en réseau.
Oui, globalement, je ne peux qu'être d'accord sur la question de la... De l'absence aujourd'hui justement de coordination. C'est vrai que dans le champ du handicap il y a une absence, mais il faut aller voir ailleurs comment ça se passe, parce que ça existe dans d'autres secteurs. Et je crois que le danger du secteur du handicap, c'est de penser qu'il va inventer les recettes tout seul, mais il en existe déjà ailleurs. Notamment, je pense que dans le champ des personnes âgées, il existe un certain nombre de réponses qui se sont créées, je dois le dire, très rapidement au regard du secteur du handicap, qui, lui, est structuré depuis plus longtemps. Première chose. Sur la formalisation, c'est nécessaire, absolument, de formaliser. Et troisièmement, sur le devenir des services, je l'ai laissé entrevoir tout à l'heure, je pense que la plupart du temps, alors là, pour le coup, dans le secteur enfant, les services que nous avons, de type CESAD, CEFIS, mais surtout dans le secteur sensoriel, là, c'est une particularité, qui ont des champs territoriaux d'intervention qui sont très larges, sont plus, en fait, pour moi, dans l'avenir, des services de ressources et d'accompagnement, de maîtrise des projets que d'intervention directe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les intervenants passent plus de temps sur la route qu'auprès des personnes. On ne peut pas continuer avec un service comme ça. Enfin, aucune entreprise aujourd'hui n'accepterait un fonctionnement pareil. C'est une aberration économique. En plus, si on regarde bien ce qui se passe au niveau des collectivités, les collectivités ont mis en place énormément de services d'accompagnement, énormément en local. Or, ce sont ces services-là qu'il va falloir aller appuyer, parce qu'ils n'ont pas l'expertise dont il a été question au tout début, et ils sont demandeurs de cette garantie.
de co-élaboration de projets et de maîtrise du projet. Mais ils ont largement les moyens de mener des actions de ce projet-là. Hein. Au niveau sensoriel, je peux vous le dire. Alors, ça existe déjà. Les établissements pour sensoriel qui ont pu créer des SAVS, par exemple, eh bien, la plupart du temps, ces SAVS fonctionnent plus aujourd'hui sur la notion de la file active plutôt que sur celle de la place. C'est une modification très importante. La place dans un service SAVS sensoriel n'a pas tellement de sens. Par contre, la file active en a un. Et dans la file active, on entend en fait quelque chose que vous appelleriez le gestionnaire de situation ou gestionnaire de cas. Enfin, c'est plutôt un responsable de projet et de ressources qu'on vient chercher. Moi, je crois que c'est vers là que vont les services de demain, en utilisant les ressources locales.
D'autres questions ? Interventions ? Commentaires ?
Non, donc on peut les applaudir, les remercier.
Merci.
Avant que vous ne partiez à nouveau pour une pause d'une demi-heure, deux informations. La première concerne la soirée de ce soir qui est prévue donc à l'église Saint-Paul. Vous avez dans votre petite sacoche une information là-dessus pour les personnes qui se sont inscrites. On va organiser un départ d'ici à partir de 19h avec un rendez-vous dans le hall ici. On va vous conduire en tram puisque la ligne E est ici proche à 200 mètres d'ici et nous conduira juste devant l'église Saint-Paul qui est à l'arrêt Gallia pour ceux qui voudraient tenter l'aventure tout seul, de prendre le tram tout seul. On est une petite centaine de personnes, sauf que un arrêt de bus sans ticket, c'est compliqué puisqu'il y a deux distributeurs, donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance et être assez discipliné pour arriver à l'heure à l'église, donc où on nous attend pour à la fois le cocktail dînatoire et puis le concert qui va suivre. Autre information pour demain. Alors là, je suis obligé de prendre mes notes, juste pour dire que demain, c'est une journée qui est entièrement consacrée à des présentations en atelier. Il y en aura 4 d'ateliers. Une salle est celle-ci, c'est la salle Schweitzer. Donc c'est l'atelier 4 animé par Pierre-Paul Lachapelle qui aura lieu dans cette salle. Ceux qui ont choisi les présentations de l'atelier 4, ben, il faut qu'ils sachent que ça va se dérouler ici, dans cette salle. L'atelier 1... c'est en salle Rang qui est à l'étage, ainsi que les deux autres salles que je vais nommer. L'atelier 2 en salle Boston et l'atelier 3 en salle Stuttgart. Hein, je répète, l'atelier 1 en salle Rang, l'atelier 2 en salle Boston et l'atelier 3 en salle Stuttgart. Et naturellement, l'atelier 4, comme je viens de le dire, dans cette salle. Voilà, ce sont ces informations dont vous avez besoin pour bien suivre la suite des événements pour la journée de demain. J'espère avoir été clair sur le rendez-vous concernant ce soir. Maintenant, petite demi-heure de pause et soyez à l'heure pour la reprise du travail. Nous allons accueillir le professeur Lafort.